Un cas extrêmement rare, l'hyperinflation allemande de 1923. Il est évident que, sans même s'intéresser à la croissance du PIB, une situation d'hyperinflation n'est pas tenable pour la population. En effet, si chaque travailleur et entreprise devait s'inquiéter tous les jours de la négociation de son salaire et du niveau de ses prix de vente, le niveau de stress serait insupportable. Cela dit, à partir de quel niveau doit-on considérer que l'inflation devient de l'hyperinflation? Une inflation de 100% par an, donc des prix multipliés par 2 tous les ans, correspond à une hausse des prix encore relativement concevable. Une bière à 5 euros le 1er janvier coûte 7 euros le 1er juin et 10 euros le 31 décembre. L'hyperinflation allemande a atteint un taux de 26 milliards de pourcents. Autrement dit, la bière à 5 euros le 1er janvier est vendue 70 500 euros le 1er juin et 1,3 milliard d'euros le 31 décembre. Autrement dit, l'hyperinflation est une situation extrême qui se matérialise quand les pourcentages n'ont plus aucun sens pour nous. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la période de forte inflation des années 1970, imputée à tort à des déficits publics importants. Or, celle-ci tournait autour de 10% par an, avec des pics à 15%, voire 20% en fonction des pays. Cela n'avait absolument rien à voir avec de l'hyperinflation. Par rapport aux standards actuels, qui tournent autour de 1% à 2%, l'inflation était certes plus élevée, mais, encore une fois, cela n'était pas de l'hyperinflation. La question qui se pose désormais est, qu'est-ce qui cause l'hyperinflation? Pour que les agents économiques puissent effectuer leurs dépenses tandis que les prix montent à plusieurs centaines de millions de marks pour des produits de première nécessité, il est évident que de la monnaie doit être injectée dans l'économie. Si celle-ci devait être introduite via le déficit de l'État, celui-ci devrait être abyssal. Pour lancer une hyperinflation en France, il faudrait que le déficit de l'État, actuellement de l'ordre de 70 milliards d'euros, soit, tout en étant financé uniquement par de la nouvelle monnaie, multiplié par 100, 1000 ou peut-être même encore davantage. Est-ce bien ce qui s'est passé en Allemagne? Il semblerait que non. Il faut bien comprendre que la situation allemande des années 1920 est exceptionnelle. Battue par les Alliés en 1918, ayant subi des pertes humaines sans précédent et obligée de rembourser des sommes pharaoniques, l'économie allemande tourne au ralenti. Afin d'éviter un réarmement, les Alliés ont interdit à l'État allemand de financer son déficit public par le biais de la création monétaire. La banque centrale allemande, la Reichsbank, a été rendue indépendante du pouvoir politique et a interdiction de financer le gouvernement. Une interdiction en vigueur actuellement dans l'ensemble de la zone euro. Afin de dynamiser l'économie, la décision est prise de fournir un pouvoir de création monétaire officiel à toutes les banques de dépôt allemandes. Que l'on se comprenne bien, les banques de dépôt pouvaient faire des promesses de mise à disposition de billets qui étaient automatiquement convertis en véritables billets imprimés par la banque centrale. L'idée à retenir est que chaque banque de dépôt allemande était devenue une petite banque centrale en puissance. Or, le plus grand pouvoir d'une banque centrale, ce n'est pas qu'elle peut créer de la monnaie, c'est qu'elle ne peut pas faire faillite. Imaginez donc ce qui peut se passer si des banques privées, qui cherchent à maximiser leurs bénéfices, peuvent prêter à n'importe qui sans aucun risque de faillite. Chaque demande de prêt devient un potentiel de bénéfice, les intérêts perçus, sans aucun risque de perte. Hyperinflation plus austérité égale grosse catastrophe. Difficile de dire exactement comment l'hyperinflation allemande s'est propagée sans une analyse historique. Cependant, les mesures mises en place par Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank, pour stopper ce phénomène, ont été décrites dans un livre qu'il a publié en 1967, « Magie des Geldes, la magie de la monnaie ». Hjalmar Schacht y explique qu'il a commencé par supprimer le pouvoir ultime de création monétaire des banques privées, Plus question d'obtenir de la monnaie centrale aussi facilement. Les banques privées peuvent toujours créer de la monnaie, mais le risque de faillite est réintroduit. Elles doivent de nouveau trier entre les bons et les mauvais emprunteurs. Le président de la Reichsbank a également interdit la spéculation sur la monnaie allemande. En effet, sous le poids terrible des remboursements imposés par le traité de Versailles, de nombreux spéculateurs utilisaient la facilité d'accès au crédit bancaire pour parier sur la perte de valeur de la monnaie allemande par rapport aux devises étrangères. Or, la perte de valeur d'une devise a tendance à provoquer de l'inflation à cause des importations. En effet, pour les producteurs qui doivent se fournir à l'étranger, la perte de valeur de la devise nationale engendre un coût supplémentaire qu'il faut reporter dans le prix de vente des produits fabriqués. L'inflation par la dépréciation du taux de change. Imaginez un fermier allemand qui achète ses engrais en France. Si une tonne d'engrais vaut 100 francs et que 1 franc s'échange contre 1 mark, alors le coût d'une tonne d'engrais est de 100 marks. Mais si la valeur du mark baisse et que désormais 1 franc s'échange contre 10 marks, alors la valeur de la tonne d'engrais, qui est toujours de 100 francs, passe à 1000 marks pour le paysan allemand. Celui-ci n'aura alors pas d'autre choix que d'augmenter le prix des denrées qu'il vend sur le marché allemand, en marque, inflation. Aujourd'hui, comme dans les années 1920, la valeur d'une devise par rapport à une autre dépend d'un marché financier très spéculatif. En d'autres termes, quand les financiers décident de parier en masse à la baisse sur une devise, le pays concerné, s'il est trop dépendant des importations et qu'il n'exporte pas grand-chose, ce qui était le cas de l'Allemagne dans les années 1920, doit faire face à une inflation plus ou moins forte. Enfin, alors que plus personne n'a confiance dans la monnaie allemande et afin de marquer les esprits, Hjalmar Schacht décide d'instaurer une nouvelle monnaie pour l'Allemagne, le Rentenmark. La crise d'hyperinflation prit fin dans l'année suivant la mise en place de ces trois mesures. L'arrivée au pouvoir d'Hitler, en 1933, fait ainsi suite à trois années d'austérité budgétaire en pleine crise déflationniste, la Grande Dépression des années 1930. Autrement dit, ce n'est pas l'hyperinflation de 1923 à 1924 qui a porté le Parti national-socialiste au pouvoir, mais plutôt l'association désastreuse de la crise de 1929, baisse des dépenses des entreprises et des particuliers, et de la rigueur budgétaire, baisse des dépenses de l'État. En conclusion, l'hyperinflation allemande est un cas extrême, des milliards de pourcents d'inflation, résultant de choix extrêmes, une privatisation totale de la création monétaire, dans un contexte économique extrême, à la suite d'une guerre mondiale dévastatrice. Quelques mesures ont suffi à stopper ce phénomène, et on peut affirmer aujourd'hui que l'accession au pouvoir d'Hitler, 10 ans plus tard, n'a rien à voir avec cette crise. Le simple financement d'un déficit public correspondant à quelques pourcents du PIB par la création monétaire ne cause pas l'hyperinflation. Hyperinflation plus faible production, le cas du Venezuela. Vous avez peut-être entendu parler de la situation actuelle d'hyperinflation au Venezuela. Celle-ci a connu un pic au mois de janvier 2019 avec des prix multipliés par 3. Que s'est-il passé? Le gouvernement a-t-il utilisé le pouvoir de création monétaire de sa banque centrale pour faire n'importe quoi? Pas du tout. L'économie du Venezuela est construite sur 2 piliers. Les services, destinés à la population, et le pétrole, destiné à l'exportation. Le pays vend son pétrole au reste du monde en échange de toutes les autres richesses qui permettent aux services de fonctionner, de satisfaire les besoins et les souhaits de la population, nourriture comprise. Cela signifie que le niveau de vie de la population est complètement corrélé à la quantité et à la valeur du pétrole que le pays est capable d'extraire de son sous-sol. Plus les barils de pétrole extraits et exportés sont nombreux et chers, plus le pays peut se permettre de faire entrer une grande quantité de richesses venues de l'étranger, importation. Or, la production de pétrole du Venezuela a diminué de 45% entre 2011 et 2019 à cause d'infrastructures vieillissantes et mal gérées. Dans le même temps, le prix du pétrole est passé de 125 à 71 dollars, soit une baisse de 42%. Pas de chance. Le cumul des deux, baisse de la production et baisse du prix, entraîne alors une baisse du pouvoir d'achat de la population de presque 70%. La crise du Venezuela n'a donc rien à voir avec la création monétaire et tout à voir avec la diminution de la quantité et du prix de vente de la richesse produite par le pays qui est échangée contre toutes les autres. Comment une diminution de la quantité extraite et du prix du pétrole se transforme-t-elle en hyperinflation? La réponse est simple. Si vous êtes livré de 30 produits dans votre magasin alors que 100 personnes se précipitent pour se les procurer, vous ne pouvez que faire grimper vos prix. La population a beau se révolter et demander des hausses de salaire, qui sont accordées grâce à la planche à billets, cela ne change rien à la situation. Il n'y a que 30 produits disponibles pour 100 personnes. Les prix montent à nouveau. En d'autres termes, la situation d'hyperinflation au Venezuela est le résultat d'une pénurie de richesses importées, elle-même provoquée par une baisse du prix et de la production de pétrole. Un cas intéressant, la stagflation des années 1970. Entre les années 1950 et les années 1970, la théorie économique dominante, inspirée des idées de l'économiste anglais John Maynard Keynes, qui a renouvelé la discipline après la crise de 1929, incitait les gouvernements à avoir des déficits en période de ralentissement économique afin de relancer l'activité et donc de réduire le chômage. Ces déficits pouvaient, en fonction du coût et la disponibilité des autres solutions, être financé par le pouvoir de création monétaire des banques centrales. La solution aux crises de la demande d'après Keynes. L'idée de Keynes était donc, quand les dépenses ralentissent, crise de la demande, merci de laisser l'État se charger de les augmenter le temps que les entreprises et les particuliers prennent à nouveau le relais. Une idée simple et claire, donc. Pourtant, comme les économistes regardent tout par le prisme de leur modèle mathématique ultra complexe et pourtant ultra simplificateur, ils n'ont pas compris ce que Keynes voulait dire. Son idée n'ayant pas de sens dans leur modèle, ils ont donc traduit cette idée par quelque chose de très différent, mais qui avait du sens pour eux. Moins de chômage signifie plus d'inflation. Ainsi, tout au long des années 1950, 1960 et une partie des années 1970, les États ont utilisé plus ou moins allègrement l'outil du déficit public pour tenter de réduire le chômage. La relation prévue par ces politiques soi-disant keynésiennes semblait être validée. Le chômage diminuait en même temps que l'inflation augmentait et inversement. Je résume énormément, mais mon éditrice ne me laisse pas développer. Le problème, c'est que, dans les années 1970, le chômage s'est mis à augmenter en même temps que l'inflation. On parle de stagflation. Les économistes se sont alors détournés de Keynes pour tendre la main à un nouvel économiste star, Milton Friedman. Quand Friedman s'en mêle. L'explication de la stagflation par Friedman repose sur deux hypothèses. Les entreprises font varier leurs prix et les travailleurs leurs attentes salariales en fonction du déficit public. Ah bon? Le déficit public est financé par un mécanisme de création monétaire que seule la Banque centrale contrôle. Je sais, c'est faux, mais que voulez-vous? C'est l'hypothèse du modèle mathématique employé. La mécanique du modèle de Friedman. Si les particuliers et les entreprises anticipent une augmentation de la masse monétaire, donc, dans le modèle de Friedman, du déficit public, de 5%, les travailleurs demandent une augmentation de salaire de 5% et les entreprises augmentent leurs prix de 5% aussi. Inflation. C'est seulement parce que les travailleurs et les entreprises sont surpris par une augmentation de la masse monétaire supérieure à 5% que l'excès de monnaie, par rapport aux anticipations, peut permettre des dépenses supplémentaires qui incitent les entreprises à augmenter leur capacité de production et donc à créer des emplois. Diminution du chômage. Bien sûr, quand le gouvernement ne fournit plus un déficit public suffisamment important pour surpasser les anticipations des entreprises et des travailleurs, la mécanique s'inverse. La quantité de monnaie disponible n'est pas suffisante pour satisfaire les anticipations des agents économiques, les prix et les salaires ont trop augmenté par rapport à la quantité réelle de monnaie en circulation, il y a donc moins de dépenses d'achat qu'anticipées, et toutes les marchandises ne se vendent pas. Les entreprises décident de réduire la production et donc elles licencient. Quoi qu'il en soit, grâce à ces deux hypothèses appliquées à son modèle mathématique, Friedman aboutit à la conclusion que la stagflation est un phénomène de retour à l'équilibre. Le déficit public a été suffisamment important dans le passé pour tromper les anticipations des entreprises et des travailleurs en termes de prix et de salaire, ce qui a permis de réduire artificiellement le chômage. Mais aujourd'hui, les anticipations rattrapent les capacités de déficit de l'État et le chômage revient à son niveau naturel. Pour Friedman, le taux de chômage naturel peut potentiellement être très élevé. L'idée de Keynes, qui n'est pas réellement son idée, n'est donc pas applicable sur le long terme. Il faut laisser la Banque centrale gérer toute seule, via des équations savantes, la quantité de monnaie en circulation et interdire à l'État de l'obliger à financer son déficit. Notez qu'il ne s'agit pas d'interdire le financement du déficit public par la Banque centrale, mais simplement de lui laisser le pouvoir de dire non, même si d'une manière générale, Friedman était plutôt contre tout déficit public pour des raisons idéologiques. Vous pouvez apprécier à quel point cette démonstration est théorique. Non seulement la théorie de la création monétaire utilisée est fausse, mais en plus, tout cela n'est fondé sur aucune enquête auprès des travailleurs ou des entreprises. N'y a-t-il pas une explication plus plausible à la stagflation ?